CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X CEO Radio-du-Bas TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Guillaume Dosinel, associé dirigeant de GFIP, ou devrais-je dire plutôt l'un des associés de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sylvain.
Alors Guillaume, vous avez 51 ans, et puis si on remonte un petit peu le temps, eh bien vous allez passer votre bac et puis rapidement enchaîner à l'université d'Assas, d'où vous sortirez maître en droit privé et diplômé en droit des affaires. Vous allez également suivre un troisième cycle de droit notarial à la Sorbonne, et fort de votre diplôme de notaire en poche, eh bien vous entamez votre parcours professionnel, d'abord comme notaire assistant, et puis vous allez rejoindre le groupe Kilvest, je crois qu'on est en 2000. Est-ce que pour vous, Guillaume, c'est une évolution logique de passer du notariat à la banque finance?
Alors, le notariat est une magnifique profession, techniquement, humainement, oui, avec de fortes exigences. J'ai beaucoup aimé cette période qui a été fondatrice. Je suis fils de notaire, donc j'éprouve à l'époque le besoin de me réaliser, de tracer ma route.
Oui.
Et j'accepte donc l'opportunité de rejoindre le groupe Kilvest. C'était le début des équipes d'ingénierie patrimoniale dans les banques privées. J'ai eu la chance d'arriver dans un groupe avec une culture entrepreneuriale forte. Et c'est donc une belle période de 11 ans pendant laquelle je suis responsable de l'ingénierie patrimoniale, du family office, de l'offre dédiée aux entrepreneurs, puis des fonctions de management au sein du directoire. Et je suis le président de la banque jusqu'en 2011.
D'accord, donc extrêmement formateur, j'imagine.
Oui, d'autant que j'ai le souvenir de cette crise de 2008 où j'étais en train de prendre mes responsabilités de management.
Oui.
Ce sont des moments forts que l'on n'oublie pas. Bien sûr, c'était intense, mais avec le soutien d'hommes d'expérience à mes côtés et puis un actionnariat familial très solide.
Oui.
J'en ai retenu trois éléments essentiels pour les clients: communication, pédagogie et transparence.
D'accord, concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire expliquer la crise? Expliquer comment sortir de la crise, ne pas avoir peur? Je ne sais pas, comment ça s'est passé, là, cette communication, cette pédagogie dont vous parlez?
Les clients à l'époque, comme dans ces grands moments de stress, si vous voulez, ont besoin d'une proximité avec leurs professionnels pour expliquer les éléments. Faire preuve de pédagogie et de transparence est un élément absolument déterminant pour que toutes les choses se passent bien dans ces moments-là.
Ouais. Et alors donc là, on est en 2011 et vous avez besoin de faire un break. Hein. Vous allez faire un tour du monde.
Oui, après 11 ans chez Kilvest, j'ai le sentiment personnel de m'être réalisé. Je fais un tour du monde pendant quelques mois. Ce sont des souvenirs formidables.
Oui.
Et puis ensuite, j'intègre en début 2012 la BPE, qui est à l'époque dans le giron du Crédit Mutuel Arkéa. C'est un interbène intéressant de 3 ans qui m'a permis d'abord de connaître le fonctionnement d'un grand groupe et puis de trouver mon projet entrepreneurial.
D'accord. Et justement, le projet entrepreneurial, eh bien, il va se présenter en 2014 et vous allez rejoindre GFIP. Alors GFIP, c'est une entreprise qui a été créée en 1976. Alors si je me souviens bien, 76, c'est une année caniculaire. Mais racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre arrivée chez GFIP. Qu'est-ce que c'est GFIP?
Alors, GFIP, c'est une société indépendante de gestion de portefeuille, une SGP, qui est agréée par l'autorité des marchés financiers et dont l'activité est de gérer sous mandat les actifs financiers de clients privés et d'institutionnels. Donc, depuis la création de GFIP, ce sont 3 générations de dirigeants qui se sont succédés en développant et en perfectionnant les processus de gestion, mais avec une vocation inchangée: anticiper les problématiques patrimonial des clients et appliquer des stratégies d'investissement qui leur sont adaptées. C'est une équipe de dirigeants qui est expérimentée en gestion privée, qui détient le capital, qui est dotée d'une forte culture entrepreneuriale. Il y a Jérôme Magnien, Antonin Desretours, Arnaud Puiseux et moi.
Et vous-même, oui.
Et c'est une équipe, c'est une équipe de collaborateurs impliqués où chacun connaît son job. On est une organisation très corporate, en fait, sans gérant star, à des années-lumière d'organisation en silo, où chacun s'occupe de clients avec un collaborateur.
Ouais, très complémentaire, l'équipe. Alors, en préparant cette interview, je me suis renseigné, et effectivement, il apparaît que GFIP évolue sur l'un des marchés les plus importants d'Europe, la France. J'étais très étonné.
Alors, le marché de l'épargne, si vous voulez, ou plus précisément le marché français de la gestion privée, c'est ça dont on parle,
oui,
est l'un des plus importants d'Europe, effectivement. C'est un marché qui est bien orienté historiquement, hein, depuis des années, avec une croissance qui est portée d'abord par les ménages les plus fortunés et puis les entrepreneurs. Donc d'accord, c'est effectivement un marché plutôt bien orienté.
D'accord. Et alors, sur ce marché extrêmement concurrentiel, j'imagine, comment on fait la différence? Comment GFIP se démarque des autres?
Oui, écoutez, nous sommes des conseils en allocation d'actifs dans le cadre d'une approche patrimoniale globale et avec une offre complète de services et une gestion financière intégrée. C'est-à-dire que GFIP se positionne comme un conseil avec un ADN ancré historiquement dans la théorie financière autour de la gestion de portefeuille par profil de risque. Donc on fait beaucoup de pédagogie, on pense que pour prendre les bonnes décisions, il faut que les clients soient éclairés.
D'accord. Et pour qu'ils soient éclairés, pour qu'ils vous fassent confiance, comment concrètement on arrive à les convaincre, ces clients?
Écoutez, je crois qu'il y a quatre points importants qui expliquent pour les raisons pour lesquelles les clients nous accordent la confiance. C'est d'abord la priorité donnée au service et à la proximité avec nos clients qui sont en contact direct avec le gérant de leurs actifs financiers.
Oui. Bon.
Ensuite, c'est la pérennité de notre modèle qui a démontré sa capacité, évidemment, à générer de la performance, sans quoi rien n'est possible. Ensuite, ce sont des clients qui souhaitent bâtir une relation de confiance dans la durée, avec un conseiller indépendant qui est capable à la fois de les accompagner sur des sujets de gestion financière et d'organisation patrimoniale. Et je dirais qu'enfin, ce sont des clients qui souhaitent asseoir une cohérence globale de leur gestion financière, tout en assurant une diversification des actifs financiers, des véhicules d'investissement et de leur localisation géographique.
D'accord. C'est ça l'ADN de GFIP. Vous dites de vous-même que vous avez un ADN ancré dans la théorie financière. C'est ce qui vous démarque?
Oui, c'est vrai, c'est très juste. On a développé des outils propriétaires au service de l'analyse fondamentale et de l'allocation d'actifs. GFIP, en fait, a toujours considéré que la R&D était essentielle au développement de son activité. Donc, cet ADN permet aujourd'hui à GFIP de bénéficier d'outils d'analyse aux meilleurs standards, d'initier des projets innovants, comme dans l'intelligence artificielle ou les réseaux neurones, qui permettent de renforcer l'expertise des gérants, tout en objectivant les prises de décision et la gestion de portefeuille.
D'accord. Et alors maintenant, si on parle de votre offre concrète, les produits que vous proposez à vos clients, quels sont-ils? C'est quoi l'offre d'épargne salariale qui est très...
Écoutez, alors nous peut-être un mot sur le développement, sur notre modèle.
Oui.
On est des gérants privés, c'est-à-dire que notre modèle de développement est plus proche de la gestion de fortune, si vous voulez, que de l'asset management. C'est un développement qui est plus mesuré, mais plus robuste.
D'accord.
Ensuite, on se développe par le réseau des associés. Nos premiers promoteurs sont nos clients.
D'accord.
Également avec des partenariats, avec des experts qui sont proches de nos métiers, comme le sont naturellement les notaires, les avocats, les experts comptables, et bien sûr, des entrepreneurs passionnés qui sont eux-mêmes, qui accompagnent eux-mêmes d'autres entrepreneurs. Et puis, au niveau communication, on a toujours privilégié, si vous voulez, une communication d'expertise. On est à l'initiative de plusieurs chroniques juridico-fiscales et financières dans la presse et d'une émission de radio dédiée aux entrepreneurs de PME.
D'accord. Alors, justement, j'imagine que toutes vos activités sont soumises à la législation. Il y a forcément une forte connaissance des règles, etc. Et quel est le cadre légal aujourd'hui dans lequel s'insère votre activité? Comment ça se passe, l'épargne salariale, pour en bénéficier?
Alors si vous voulez parler de l'épargne salariale qui était en fait l'une de nos mécaniques d'acquisition client, GFIP en fait propose un accompagnement sur mesure concernant l'épargne salariale. Cela va de la réflexion en passant par la rédaction, la mise en place et le suivi des dispositifs d'intéressement et de participation. C'est pour nous un catalyseur qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs de PME dans l'ensemble de leurs projets patrimoniaux. L'épargne salariale est un dispositif particulièrement approprié qui fait partie de la panoplie des outils pour attirer et fidéliser les salariés dans un cadre fiscal et social attractif.
D'accord. Et alors, est-ce que moi, chef d'entreprise, je peux aussi bénéficier de ce type de dispositif? Est-ce que j'y ai droit?
Oui, oui, absolument, vous avez raison. Alors, juste pour rappeler un instant, je dirais les deux piliers de l'épargne salariale, c'est d'abord l'intéressement qui est lié à des objectifs commerciaux, de productivité ou financiers, et la participation qui est plutôt assise sur les bénéfices. Une fois signé l'accord de participation qui est obligatoire
pour les
entreprises de 50 salariés, et d'intéressement qui, lui, est facultatif, profite à tous les titulaires d'un contrat de travail, donc il faut 3 mois d'ancienneté minimum, et dans une limite individuelle qui ne peut excéder un peu moins de 35 000 euros en 2024. Alors, pour revenir à votre point sur le sujet des chefs d'entreprise, oui, c'est un dispositif qui est attractif également pour le chef d'entreprise. Si on détaille, les chefs d'entreprise comptant entre 1 et 249 salariés sont éligibles à l'intéressement, et ceux des TPE-PME entre 1 et 49 salariés sont éligibles à la participation s'ils la mettent volontairement en place. Et enfin, ça c'est important, à certaines conditions, le chef d'entreprise peut bénéficier de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale dans le cadre de sa holding qui détiendrait sa participation de l'entreprise. Et il y a un dernier point important qu'il faut que vous notiez, c'est que à partir du 1er janvier 2025, toutes les entreprises entre 11 et 49 salariés devront mettre en place un dispositif d'épargne salariale dès lors qu'elles réalisent un bénéfice fiscal égal ou supérieur à 1% de leur chiffre d'affaires durant les 3 derniers exercices.
Voilà. D'accord. Donc, j'entends effectivement ce que vous dites et j'en comprends surtout la complexité, d'où l'intérêt effectivement de faire appel à des entreprises comme GFIP, hein, j'imagine.
Oui, d'être accompagné.
Absolument. Alors, si on continue à essayer de comprendre un petit peu le marché, si on joue à Madame Irma, selon vous, quelles sont les grandes tendances du marché demain?
Merci pour cette question. C'est toujours très compliqué de répondre à cette question, mais j'ai deux éléments de réponse. La première chose que je souhaite rappeler, c'est que la prédiction est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Nous sommes des investisseurs longs, et donc, sauf pour un devin, et vous le rappeliez, il y a un prix à payer pour ne pas manquer les meilleures semaines ou les meilleures journées sur les marchés. Ça veut dire que l'investisseur doit se résigner à subir les variations intercalaires, ce que l'on appelle dans notre jargon la volatilité.
D'accord.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, plus marché, c'est que l'optimisme économique a continué de se propager aux États-Unis et que les publications de résultats ont soutenu les attentes et renforcé l'idée que la croissance des profits attendue en 2024-2025 ne serait pour l'instant pas revue en baisse. Ça, c'est un premier point positif.
Ouais.
Le second point, c'est que les flux investis dans les actions ne sont pas significatifs par rapport aux masses de liquidités allouées vers les produits monétaires. Donc, la réserve de réinvestissement est importante.
D'accord.
Alors, ces points positifs doivent être modérés de l'évolution des taux aux États-Unis où l'économie est toujours plus forte et freine donc la baisse de l'inflation. En France, et plutôt en Europe d'ailleurs, on ne cesse de revoir en baisse les perspectives de croissance, ce qui installe la BCE en position de confirmer ses intentions de baisser les taux
en juin.
Et enfin, les matières premières, c'est un point de vigilance, surtout si la Chine renforçait son plan de relance. Donc on a deux conclusions sur les marchés stade. C'est un, la volatilité offrira des points pour se renforcer au cours des prochains mois. Et deux, investir dans une croissance stable avec une inflation contrôlée par des taux d'intérêt plus élevés nous semble un scénario favorable au portefeuille diversifié et actions.
D'accord, donc ça veut dire que, en fait, ça répond à ma question suivante, c'est que vous êtes quand même directement impacté par l'actualité, quoi qu'il en soit, et par les
tendances. Ah oui, clairement.
Ouais, ouais.
Clairement, on s'ajuste complètement à l'actualité du moment, bien sûr.
Alors justement, qu'est-ce qui se murmure dans les couloirs de GFIP? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles offres, de nouveaux produits, un nouveau mode d'accompagnement pour vos clients? Il y a une actualité?
Écoutez, l'actualité, elle est celle notamment dont on a parlé sur l'épargne salariale, qui est un point important pour nous. On est en train de se développer sur cette activité qui répond à un besoin très fort des entrepreneurs et qui, pour nous, véritablement est un catalyseur pour accompagner les entrepreneurs de PME dans l'ensemble de leurs projets patrimoniaux et qui donc fait partie, si vous voulez, de l'offre qu'on est en train de développer actuellement.
D'accord. Alors, je crois, Guillaume, c'est certainement GFIP ou vous-même, mais que vous soutenez une association. Quelle est-elle?
Oui, avec le navigateur Nicolas Jossier, qui est skipper professionnel sur Classe 40.
Ouais.
Nous soutenons l'association ELI, qui veut dire Ensemble, Leucémie, Lymphome, Espoir.
D'accord. Et concrètement, vous faites quoi? Vous les soutenez financièrement? Vous participez à des
événements?
On
les soutient Oui, absolument. Avec le navigateur Uncollege aussi, on les soutient financièrement au travers de communication, au travers du soutien que l'on a avec lui dans sa démarche avec eux pour combattre la leucémie.
D'accord. Donc, si on veut avoir des informations complémentaires, on tape E2LYE sur Internet pour avoir davantage d'informations.
Absolument.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Guillaume. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.